Fréquence Terre.
Cette méthode Montessori, en quoi elle diffère de la méthode traditionnelle, comme vous le disiez tout à l'heure ?
En plusieurs points. Le premier, je dirais que c'est une méthode qui est adaptée au rythme de chaque enfant. Donc c'est un enseignement individuel et non pas collectif. Donc les enfants sont tous dans une classe dans laquelle ils sont libres de leurs mouvements, libres de parler, libres de choisir leur activité, ce qui implique qu'ils ne font pas tous la même chose en même temps. Donc c'est une méthode qui les rend très actifs. Et donc ça, en cela, c'est assez différent de l'enseignement traditionnel où ils sont tout de même pas mal téléguidés, l'emploi du temps est décidé pour eux et ils doivent obéir, répondre à la demande en permanence. Ils sont très acteurs de leur apprentissage et donc dans le choix de l'activité, mais aussi dans la manière d'apprendre, puisqu'ils utilisent du matériel pédagogique. Donc les connaissances ne leur sont pas données par l'enseignant qui fait un cours, mais c'est le matériel pédagogique qu'ils manipulent qui leur permet d'appréhender les concepts de façon sensorielle avant que les concepts ne leur soient donnés et qu'ils s'approprient ces concepts.
Je crois également que dans la pédagogie, ils sont par tranche d'âge mélangés, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas, comme dans le système conventionnel, un an par une année par âge. Pourquoi ce choix, finalement, de mélanger les tranches d'âge ?
Tout à fait. Alors, ils sont effectivement dans quatre groupes d'âge. Un premier de... avant 3 ans, ça c'est pour les petits.
Les petits.
Ensuite, une classe de 3 à 6 ans, une de 6 à 9 et une de 9 à 12 qui correspond aux étapes de développement que
Maria
Montessori a observées. Donc ça leur permet d'avoir un programme sur 3 ans plutôt qu'un programme sur 1 an et donc, entre guillemets, pas de programme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en avance ou en retard, ils ne sont pas en difficulté parce que trop rapide ou trop lent, ils suivent leur rythme.
Oui.
Voilà. Et alors justement, ils suivent leur rythme, mais est-ce qu'il y a des étapes intermédiaires, on va dire, peut-être d'un niveau à l'autre, d'une classe d'âge à l'autre, pour voir où ils en sont et savoir si... alors peut-être qu'on ne parle pas de retard ou d'avance, mais savoir voilà, où ils en sont, s'il y a des points sur lesquels il vaut mieux insister ou pas.
Oui, alors le rôle de l'éducatrice Montessori... et d'observer les enfants. Donc elle sait en permanence, même s'il n'y a pas d'évaluation, comme il y en a dans l'école traditionnelle, elle sait où ils en sont dans le cursus, à force d'observation. Et elle les accompagne vers les activités qui pourraient les attirer un petit peu moins, tout en respectant leurs attirances profondes pour certaines matières, parce que ces attirances évoluent en fonction de périodes sensibles.
Alors oui, justement, à ce sujet, puisque c'est un point important, puisque Maria Montessori parlait beaucoup de périodes sensibles dans l'enfant, et puis quand on a des enfants soi-même, ce qui vous arrivera prochainement, j'espère, un jour, Grégory, mais on s'aperçoit que les enfants ont des sensibilités différentes, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils apprennent pas à parler en même temps qu'ils apprennent à marcher, il y a des étapes, et c'est bien, parce que sinon ça se bouscule un peu probablement au portillon... Et qu'il y a des enfants qui peuvent apprendre à lire finalement très tôt dans leur développement et puis d'autres plus tard. Puis finalement, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est justement d'accompagner cette période, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, on pourrait comparer ça à l'apprentissage de la marche. Vous avez tous dans votre entourage des enfants qui marchent à 10 mois et d'autres qui marchent à 18 mois. Bon, au final, tout le monde marche et c'est ça l'essentiel, et que chacun apprenne à marcher au moment où c'est bon pour lui, qu'il n'y ait pas de pression, d'angoisse de la part des parents parce que ça vient tard, de surstimulation pour que ça arrive plus tôt. Peu importe, l'essentiel, c'est que l'enfant se développe harmonieusement. Et donc, il est important de connaître ces différentes périodes sensibles. Donc, il y en a... Bon, les périodes essentielles que Maria Montessori avait soulignées sont celles de l'ordre, la période sensible du mouvement, la période sensible du langage, du raffinement sensoriel, de la vie sociale et du goût pour les tout petits objets. Mais bon, il y en a d'autres... qu'elle n'a pas définie en tant que telle, mais qui sont des attirances particulières, parce qu'en fait, une période sensible, c'est une attirance pour un élément de l'environnement qui permet à l'enfant de développer ce qu'il est prêt à apprendre.
Donc il va l'apprendre, si on arrive à capter cette période, c'est vraiment tellement le bon moment qu'il va acquérir cette compétence, finalement très vite, très facilement, naturellement.
Oui, c'est un déclic. S'il est placé dans un environnement propice à cette période sensible, il absorbe, grâce à son esprit absorbant, donc comme Maria Montessori le définissait, on dit que les enfants sont comme des éponges, hein, ils absorbent les ambiances, les atmosphères, mais ils absorbent aussi les apprentissages du simple fait d'être dans un environnement propice.
Alors l'environnement, justement, est-ce que les classes qui accueillent les enfants éduqués dans cette méthode Montessori changent beaucoup au niveau de l'espace, de l'aménagement, du mobilier peut-être? Parce que vous dites qu'il faut un environnement propice, donc j'imagine qu'il faut aussi beaucoup de matériel. Vous parliez de toucher, de sens. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous décrire ces classes?
Tout à fait. En fait, c'est un environnement très étudié, aménagé en amont, parce que dans la pédagogie Montessori, on essaye de travailler en amont plutôt que directement sur l'enfant. On agit sur l'environnement, donc on lui propose un environnement extrêmement soigné, extrêmement attractif, extrêmement attirant, propice à l'activité, au déplacement.
Et, à la concentration.
À la concentration. Et donc il y a idéalement une grande salle.
Alors il y a des annonces du salon, ce qui prouve que nous sommes en direct du salon Planète Durable. Alors excusez-nous pour cette petite interruption qui ne va pas durer longtemps. Et voilà, donc nous sommes en direct, comme vous pouvez l'entendre, et nous parlons de la méthode Montessori avec Charlotte Poussin.
Voilà, donc c'est une classe dans laquelle est placé le matériel Montessori à la libre disposition des enfants sur des étagères réparties dans différentes zones. Alors une zone qui se consacre au langage, une autre aux mathématiques, une autre au raffinement sensoriel. La première étagère vers laquelle on dirige les plus jeunes enfants quand ils arrivent, ce sont les étagères de vie pratique qui permettent à l'enfant d'apprendre à faire comme les adultes toutes ces activités qu'ils voient leurs parents faire et qui les attirent. Donc
on peut retrouver, moi c'est ce qui m'a fascinée dans les écoles Montessori, on peut retrouver par exemple des petits pots en porcelaine, typiquement, où on va les laisser verser avec ces petits pots en porcelaine, évidemment ce qu'on ne ferait jamais dans un système conventionnel.
Oui, c'est-à-dire qu'on propose à l'enfant un matériel réel, adapté à sa taille et à sa force, donc ce sont des petits pichets, des petites tasses, des petites assiettes.
C'est la petite dinette.
Voilà. Mais ce sont de vrais objets. Ce ne sont pas des jouets en plastique. On ne se dit pas, on va leur donner du plastique et des choses insalissables, incassables. Comme ça, ils peuvent le jeter dans tous les sens. Au contraire, on leur offre la possibilité de respecter ce matériel.
C'est pour les responsabiliser ?
C'est pour les responsabiliser.
Donc c'est tout sauf l'anarchie, en fait. Parce que parfois, c'est vrai que quand on entend parler de pédagogie alternative, hein, que ce soit Steiner, Freinet ou Montessori, on a tendance, enfin moi j'ai déjà eu des réflexions à ce sujet puisque mes enfants étaient dans une école Montessori en disant c'est un peu l'anarchie, tout le monde fait ce qu'il veut, alors qu'en fait c'est tout l'inverse de ça.
Oui, on entend souvent ça, effectivement il y a pas mal de préjugés malheureusement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'écrire ce livre, pour promouvoir cette pédagogie qui m'est à cœur, mais aussi pour lutter contre toutes les idées fausses, notamment celle de l'enfant roi. Parce que l'enfant choisit son activité, on s'imagine.
Alors voilà, justement, on pourrait imaginer que comme il y a plusieurs lieux, vous parliez de la lecture, des mathématiques, moi je me pose la question, est-ce que l'enfant ne va pas d'emblée vers ce qu'il préfère et aurait tendance à aller toujours vers le même endroit où il y a les petits jeux et du coup délaisser les autres apprentissages?
Oui, alors les petits jeux, en fait, ils sont tous éducatifs dans une classe Montessori, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une caisse avec des petites voitures et des schtroumpfs. Ça, c'est pour la période garderie, avant ou après, ou pendant la pause déjeuner, mais dans la classe, même s'il est attiré parce qu'il attire le plus, ça reste un matériel pédagogique. Donc déjà, ça peut répondre à votre question, mais on va tout de même respecter son attirance parce que elle répond à une période sensible. Il ne va pas passer 3 ans dans ce petit coin, même s'il
va s'enlacer.
Il va s'enlacer. Une fois qu'il aura acquis ce que ce matériel lui offre, il va avoir envie d'autre chose. Parce que l'enfant a naturellement envie d'apprendre, il a soif d'apprendre. On ne pousse pas l'enfant à apprendre à marcher, c'est un instinct, un élan. Et s'il n'est pas contrarié, donc s'il a un instinct vers les mathématiques, par exemple, on ne va pas lui dire « Non, tu fais trop de maths, ça ne va pas, il faut aussi que tu fasses de l'histoire ». Une fois qu'il sera assouvi en mathématiques, il va se diriger vers l'histoire. C'est vrai. Moi, j'ai donc travaillé dans des classes pendant 12 ans. C'est vrai que des enfants traversent des périodes où ils ont plus d'attirance pour telle ou telle matière, mais il faut le respecter, tout en restant vigilant, bien sûr, puisqu'on on essaye de les séduire, de les attirer vers d'autres activités pour que ce soit équilibré. Mais on respecte la prépondérance d'une matière pendant un moment donné.
Alors, je ne sais pas si vous avez noté, Grégory, mais elle ne parle pas d'instituteur ou de professeur, elle parle d'éducateur.
D'éducateur.
Et ce terme a son importance. Pourquoi, Charlotte ?
Tout à fait, parce qu'en fait, instituteur vient de instutere, qui veut dire maître dans. Et la pédagogie Montessori considère que quand on éduque, on ne remplit pas l'enfant de connaissances, mais on laisse le potentiel humain qui est en chaque enfant jaillir. Donc on emploie le terme éducateur qui veut dire faire jaillir, éduquer.
Ah, c'est très beau. Alors justement, pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre finalement ? Parce qu'il en existe déjà quelques-uns. Votre livre apporte un éclairage finalement assez direct et lumineux finalement sur la méthode Montessori. Vous pouvez nous décrire un petit peu comment il est constitué aussi chapitré ?
Oui, alors bon, dans un premier temps, je vais vous dire pourquoi je l'ai écrit. Donc pour promouvoir la méthode, et sachant que c'est vrai, il en existe plusieurs, mais je me dis que plus il y en a, mieux c'est. Et j'avais aussi envie, dans ce livre, de parler de la pédagogie Montessori à la maison. C'est-à-dire de faire sortir la pédagogie des écoles, qu'on ne s'imagine pas que c'est uniquement une méthode qui a lieu dans les écoles, qui sont malheureusement en France, bien malgré elles d'ailleurs, des écoles chères, rares et chères. Ce n'est pas le cas partout.
Vous pouvez nous dire combien d'écoles Montessori existent en France ?
Une centaine.
Et dans le monde ?
Ce qui est très peu. 30 000.
D'accord, c'est très développé, je crois, aux États-Unis,
oui.
Ou dans d'autres pays. Je crois que la Chine aussi est en train de développer à vitesse grand V les écoles Montessori. Oui,
tout à fait. En fait, quand je dis 30 000, je parle des écoles qui sont des écoles Montessori pures et dures. Maintenant, il y a des pays comme l'Inde, par exemple, où il y a des États qui en comptent 50 000 à eux tout seuls, mais qui sont des écoles d'inspiration Montessori, dont les éducateurs ne sont pas formée par l'association Montessori internationale, mais sont vraiment dans la mouvance montessorienne parce qu'elle a vécu en Inde et qu'elle y a laissé une empreinte très très profonde.
Alors vous parlez de l'association Montessori internationale, hein, l'AMI. Votre livre est préfacé par son président. Donc ça veut André Robert Froy. Donc vous êtes vraiment soutenu, effectivement, votre livre est soutenu par l'association, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les livres finalement qui parlent de Montessori. Donc si on revient un peu sur le chapitrage et l'organisation du livre, oui. Donc il est vraiment un outil à destination des parents et puis aussi des éducateurs, évidemment.
Voilà. Il s'adresse à toutes les grandes personnes, hein, pour parler comme le petit prince, à tous les adultes qui cherchent à poser un regard nouveau sur l'enfant, à s'interroger sur l'éducation. Qu'ils soient parents, grands-parents ou éducateurs professionnels. Et c'est un livre donc, qui présente dans un premier temps Maria Montessori, son œuvre, sa philosophie, les piliers donc, de la pédagogie, qui décrit ensuite le fonctionnement des écoles. Et enfin, dans une dernière partie, suggère aux parents, là, des manières, l'état d'esprit qu'on peut adopter pour être montessorien en dehors de l'école.
On peut avoir un exemple.
c'est surtout un état d'esprit, en fait, parce que c'est vrai que Montessori, ça peut pas se réduire au matériel et à l'attitude de l'éducateur qui est essentielle dans la classe. C'est avant tout un état d'esprit de respect de l'enfant, parce que c'est une philosophie qui place vraiment l'enfant au centre de l'éducation. Et qui souligne sur l'importance de respecter l'enfant. On parle souvent du respect que les enfants doivent aux adultes. Il est important de souligner aussi qu'on doit leur transmettre.
Ça marche
aussi,
en sens inverse.
Ça marche dans le sens inverse.
Et c'est parce que ça commence dans le sens inverse qu'eux peuvent respecter aussi ceux qui les entourent.
Il y a un exemple dans votre livre que j'adore et qui m'a fait beaucoup rire parce qu'il est tellement vrai. On imagine un enfant qui va se servir un petit peu avant l'apéritif, un adulte pourrait facilement, on imagine, lui taper sur les doigts en lui disant « tu ne vas pas te servir », alors qu'on ne ferait jamais ça avec un invité. S'il sert un peu avant les autres, de manière un petit peu mal polie, est-ce que vous verriez, vous, Grégory, aller taper sur les doigts de votre invité comme ça,
un peu délicat tout de même. Mais je ne sais pas si mes invités oseraient se servir sans mon accord aussi.
Non, mais un exemple peut-être...
C'est des règles de politesse aussi qu'il faut intégrer, donc je ne sais pas.
Oui, alors un exemple, par exemple, il ne s'agit pas de ne pas dire à l'enfant de ne pas se servir. Il s'agit de lui dire...
De ne pas lui taper sur les doigts.
Avec respect.
Ah, oui.
C'est-à-dire que si votre invité met les pieds sur votre barreau de chaise qui est du 18e siècle et qui est fragile, vous allez lui demander gentiment de faire attention parce qu'elle est fragile. Beaucoup d'adultes auraient tendance à dire « Mais ça ne va pas, non ?» à un enfant. « Ça ne va pas, non ? Comment est-ce que tu peux te permettre de mettre les pieds sur cette chaise ?» etc. On va avoir un égard vis-à-vis d'un invité qu'on devrait, en fait, idéalement avoir avec nos enfants.
Ça veut dire que la méthode Montessori, il faut qu'elle soit complète à la maison et à l'école. Elle ne fonctionnera pas si, à la maison, les parents ne jouent pas le jeu ?
Fonctionner, si. Ils recevront quand même beaucoup de bénéfices de leur journée, mais c'est idéalement... mieux si les deux ambiances, maison et école, sont harmonieuses.
Il faut que les parents soient formés, alors ?
Écoutez, il faut qu'ils lisent mon livre.
Exactement. Alors, il y a aussi de grandes figures, Jeff Bezos, qui est le fondateur de Amazon.com, du grand site de vente en ligne, et puis aussi un des fondateurs de Google, qui disent, quand on les interroge, à quoi devez-vous votre succès, finalement, cette liberté d'entreprendre et d'avoir inventé des nouveaux modèles. Et ils disent, moi, j'étais à l'école Montessori, c'est ça qui m'a donné cette grande liberté d'être moi-même. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, je donne ces deux exemples dans le business et dans l'Internet. On pourra en donner, d'autres. Je sais que Gandhi aussi soutenait un petit peu pour nous donner des grandes figures comme ça.
Il était ami, en fait, avec Maria Montessori. Il y a beaucoup de personnes. Bon, il y a aussi beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui mettent leurs enfants dans la méthode, mais il y en a aussi qui l'ont soutenu en amont, Freud, Dolto.
De grands penseurs, ouais. Sur l'éducation qui finalement ont dit que c'était une méthode qui avait fait ses preuves quelque part.
Ouais.
Alors les enfants suivent leur voie, si je comprends bien, dans cette méthode. Est-ce que le risque, à l'inverse, serait pas qu'ils soient un peu trop individualistes, c'est-à-dire que s'ils vont vers ce qu'ils aiment, c'est pas forcément les mêmes attentes pour les autres enfants. L'école traditionnelle essaye justement de socialiser les enfants, sociabiliser. Est-ce que du coup le risque de la méthode Montessori serait pas de les rendre un peu trop individualistes ?
Oui, c'est une très bonne question qui se pose souvent. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que mettre 30 enfants dans une salle ensemble ne les socialise pas. Ils sont côte à côte, passifs, ils font tous la même chose.
C'est du bétail ?
Non, je n'irai pas jusque-là. Non,
c'est moi qui le dis.
En revanche, si vous les laissez libres dans un environnement où ils peuvent évoluer, va se créer un réel lien social, puisqu'ils ont le droit de parler. Et qu'ils vont devoir s'organiser. Ils vont avoir une vraie petite vie communautaire, puisque tout le matériel est en un seul exemplaire. Donc s'il y en a un qui veut utiliser le matériel des timbres pour faire des opérations, des divisions, et qu'un autre veut l'utiliser aussi, ils vont devoir négocier, entre guillemets, discuter, trouver un compromis, régler leurs comptes et dire, écoute, tu le prends, mais pas trop longtemps, oublie pas que je veux le faire.
L'un peut même expliquer à l'autre.
L'un peut expliquer à l'autre, et puis ils peuvent le faire ensemble aussi. C'est ça qui est merveilleux, c'est que comme il y a plusieurs tranches d'âge, il y a les petits qui sont attirés vers les activités des grands, il y a les grands qui aident les petits, ce qui est tout de même un acte social exceptionnel, et puis ça consolide ses connaissances en plus. Donc il ne perd pas son temps en revoyant ses bases.
Est-ce que cette méthode peut convenir à tous les enfants ?
Oui, je pense, sauf exception.
Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un milieu social particulier ? Est-ce qu'il ne faut pas que les enfants soient issus d'une famille plus éduquée ou plus...
Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, du fait que ce soit des écoles assez chères en France, on s'imagine souvent justement que c'est une école pour les privilégiés. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une école qui a été créée par Maria Montessori dans les quartiers les plus pauvres de Rome. Elle accueillait des enfants des rues, en fait, qui n'étaient pas scolarisés.
C'était ça, ces expérimentations, en fait, au début. Hein, c'était dans les quartiers défavorisés.
Oui, en fait, au tout départ, elle avait reçu une salle et l'autorisation d'accueillir les enfants d'ouvriers qui n'étaient pas scolarisés et qui s'ennuyaient dans les rues. Donc elle leur a proposé un matériel pédagogique qu'elle avait déjà élaboré aux côtés d'enfants déficients. Et elle leur a donné en libre service. Et ils étaient une cinquantaine, donc ce n'est pas non plus un tout petit effectif. Hein. Elle avait une assistante et il s'y épanouissait formidablement.
Aujourd'hui aussi, c'est à peu près le même nombre d'élèves. C'est une trentaine pour un éducateur ou comment ça fonctionne ?
Alors ça dépend vraiment des écoles. Dans les écoles Montessori qui respectent tous les critères, oui, il y a beaucoup d'élèves dans une classe parce que justement, ça permet à l'enfant d'avoir une certaine liberté, de ne pas avoir l'adulte en permanence sur son épaule. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles Montessori en France qui proposent des effectifs réduits, mais c'est aussi pour, séduire les parents qui s'imaginent que c'est mieux, mais c'est pas forcément mieux. C'est pas moins bien non plus, mais ça n'est pas indispensable d'être en tout petits effectifs dans une école Montessori pour que la pédagogie soit efficace.
Moi, j'avais une autre question. C'était vraiment si on pouvait tirer un portrait robot, mais je sais qu'on peut pas le faire, mais de l'esprit de l'enfant montessorien qui a vraiment suivi sa scolarité, comment justement se distingue-t-il des autres dans son être, dans son comportement. C'est vrai qu'en étant allée dans des classes Montessori, moi, j'ai toujours été fascinée par ce merveilleux silence qui règne parfois de concentration des enfants qui sont tout à leur activité. Je trouve ça absolument merveilleux. Et après, quand ils grandissent, quel esprit montessorien ressort de tout ça ?
Écoutez, les premiers mots qui viennent à l'esprit, c'est confiance en soi, estime de soi, autonomie, responsabilisation, sens de l'autre, et puis envie d'apprendre. Envie d'apprendre. Et joie de vivre, parce que ce sont les enfants souvent très bien dans leur basket, entre guillemets.
Donc quand
parce qu'il oui. y a un autre terme essentiel, c'est l'autodiscipline aussi. C'est vrai qu'ils ont, de par ce système, l'habitude de choisir leur activité, d'être actif, non passif. Et naturellement, l'enfant n'est pas paresseux. On peut se dire, oui, il ne va rien faire parce qu'on le laisse libre. S'il est en permanence contraint par ailleurs, oui, dès qu'il a une petite fenêtre de liberté, il va soit faire du chahut, soit ne rien faire. Mais un enfant qui n'est pas contraint n'est jamais paresseux et inactif. Donc dans cette atmosphère, ils sont tous très actifs et c'est vrai que c'est impressionnant de voir un groupe de 30 enfants libres et très calmes, extrêmement calmes. En général, dans une classe Montessori, règne un grand calme et une grande concentration, une grande capacité de se concentrer.
Pourquoi est-ce que cette méthode n'est pas généralisée ? Pourquoi l'éducation ? Quels sont les freins que met l'éducation nationale à ce que ça se généralise ?
C'est un gros mammouth, vous savez. c'est compliqué.
C'est la question. Moi, je n'ai pas la réponse parce que ce serait tout à fait applicable dans l'éducation nationale. Seulement, il faudrait investir dans le matériel et dans la formation parce que c'est vrai que...
Et ce serait tout à fait souhaitable.
Vous parliez du prix, par exemple. Combien coûte une scolarité à l'heure actuelle ?
Bah écoutez, ça dépend des écoles, mais ça coûterait pas forcément plus cher. Le prix mensuel dans une école Montessori en France, à l'heure actuelle, varie entre... Alors, après, il y a quelques exceptions, puisqu'il y a quelques écoles sous contrat en France.
D'accord.
Notamment dans le nord de la France.
Oui, il y a aussi une à Lyon et une à Rennes. Donc là, les tarifs sont vraiment indexés sur les salaires et sont entre 10 et 150 euros le mois. Donc c'est le prix de n'importe quelle école privée. En revanche, dans les écoles hors contrat, donc qui n'ont pas de subvention... les écoles sont obligées de demander plus aux parents, puis qui financent tout. Donc ça varie entre, disons, 200 et 500 euros par mois. Ce qui fait une scolarité chère, mais qui reste moins chère qu'un enfant dans l'éducation nationale coûte à peu près 7 000 euros par an. Donc ça reste moins cher.
Oui.
Voilà. Merci Charlotte Poussin pour toutes ces explications, pour nous avoir présenté cette méthode Montessori pour cet épanouissement de l'enfant par lui-même. Merci Anne Guéquier d'avoir mené cette interview.
Grégory, je rappelle peut-être le titre du livre, donc « Apprends-moi à faire seul, la pédagogie Montessori expliquée aux grands » aux éditions Erol, écrit donc par Charlotte Poussin et préfacé par le président de l'association Montessori International. Merci Grégory, merci à Fréquence Terre aussi.
Merci beaucoup.
Merci Charlotte.